Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le pape a présidé sa première audience générale après la pause du mois de juillet. Il est revenu sur son voyage pénitentiel au Canada. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en République démocratique du Congo, en Somalie et au Burkina Faso, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Le pape François a repris son cycle de catéchèse mercredi 3 août dans la salle Paul VI au Vatican. Le Saint-Père a partagé quelques réflexions sur son pèlerinage pénitentiel effectué du 24 au 30 juillet dernier, un parcours de réconciliation, de guérison et de conversion. Myriam Sandounou.
De retour de son voyage pénitentiel au Canada, François est revenu sur les moments forts vécus avec les peuples autochtones qui, dans le passé, ont été victimes d'abus. Ce voyage qui avait pour devise « marcher ensemble » a été un parcours de réconciliation, de guérison et d'espérance, a-t-il rappelé tout en condamnant la mentalité colonisatrice encore présente dans le pays.
Nello stesso tempo ho rilevato come la mentalità colonizzatrice.
Le Saint-Père a ensuite invité à un retour sain, une harmonie entre la modernité et les cultures ancestrales, entre la sécurisation et les valeurs spirituelles. En réalité, une ouverture à l'autre différent ne porte jamais atteinte à l'identité, a rappelé François. Le pape a enfin encouragé les pasteurs, les personnes consacrées et les laïcs de l'Église du Canada à suivre les traces de Saint François Laval, premier évêque du Québec, à servir l'Évangile et les pauvres et à être des bâtisseurs d'espérance. De son parcours pénitentiel au Canada, François retient un voyage duquel jaillit l'espérance pour l'Église au Canada et partout ailleurs.
À l'issue de l'audience générale, François a rappelé la catastrophe survenue en 2020 dans la capitale libanaise Beyrouth à la veille de son deuxième anniversaire. Une prière pour les familles des victimes et l'espoir que le Liban, avec l'aide de la communauté internationale, continue à marcher sur le chemin de la renaissance tout en restant fidèle à la vocation d'être une terre de paix. Le Saint-Père a également adressé ses salutations aux jeunes qui participent à l'oratoire d'été organisé dans l'enceinte du Vatican. Avant l'audience générale, le pape a rencontré les animateurs et le personnel de ce centre d'été. Je salue les jeunes du centre d'été, des jeunes du Vatican. Ils sont restés silencieux jusqu'à présent et force est de constater qu'ils font du bruit accompagnés de leurs parents et animateurs que je remercie pour leur précieux travail. Cette initiative accueille depuis 3 ans des enfants de différents groupes d'âge, fils d'employés du Vatican. Le centre d'été est également ponctué de moments de prière et de réflexion. Il se déroule au sein de la cité du Vatican dans des espaces équipés pour les activités récréatives et sportives. L'actualité de l'Église nous conduit en République démocratique du Congo où la Conférence épiscopale nationale CENCO se dit particulièrement concernée par les actes de violence dans l'est du pays et lance un appel pressant à la retenue. Les détails avec Xavier Sartre.
Les évêques de RDC se disent préoccupés par les accès de violence dans l'est du pays. Dans une déclaration, la CENCO s'élève contre la violence et n'est pour eux jamais tolérable. Le président de la conférence épiscopale dit suivre avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la mission des Nations Unies dans son pays. Monseigneur Marcel Outembitapa comprend la colère du peuple congolais devant les limites de l'armée congolaise et de la MONUSCO face à l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC depuis plus de 20 ans. Il appelle la population à manifester de façon pacifique et à condamner tout recours à la violence ou au pillage. Ceux-ci ne feront qu'amplifier ou perpétuer le mal ainsi que la souffrance des populations, écrit l'archevêque de Kisangani, demandant une enquête sur ces incidents. La déclaration des évêques recommande enfin aux hommes politiques et aux leaders communautaires de s'abstenir de tout discours susceptible d'entraîner la haine et la violence. Elle encourage le gouvernement à engager le dialogue avec la MONUSCO et les représentants de la société civile afin de rétablir les conditions d'un retour à la paix.
Passons à présent à l'actualité politique et sociale sur le continent africain par la République démocratique du Congo. Le gouvernement de ce pays a demandé aux Nations Unies le départ, dans un bref délai, de son porte-parole. Pour le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la présence du fonctionnaire sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Les propos tenus par Mathias Gilman, affirmant que la MONUSCO ne disposait pas des moyens militaires pour faire face au mouvement de la rébellion M23, sont à la base de la tension actuelle à l'est du pays. Par ailleurs, l'armée congolaise a annoncé mardi avoir tué 11 membres du groupe armé Force démocratique alliée, considéré comme responsable des massacres de plusieurs milliers de civils depuis 2014 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise affirme avoir perdu 2 soldats. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée à Beni dans le Nord Kivu, a déclaré que les forces armées congolaises ont également récupéré 3 armes de guerre, dont une mitrailleuse automatique. Au Burkina Faso, l'armée a reconnu mercredi la mort de civils lors de frappes aériennes contre des groupes terroristes dans l'est du pays. Selon l'état-major de l'armée burkinabé, des actions de ciblage visant des groupes terroristes responsables de plusieurs exactions ont été effectuées dans plusieurs localités de la région de l'Est et ont malencontreusement causé des victimes collatérales au sein des populations civiles. Le Mali a ordonné le départ dans un délai de 72 heures des forces étrangères d'une base de l'aéroport de Bamako servant de logistique à des soldats étrangers de l'ONU notamment. Cet ultimatum intervient quelques semaines après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens liés à cette base dont les négociations pour leur libération étaient toujours en cours mercredi. En Somalie, un ancien dirigeant des islamistes Chebab, devenu homme politique, a été nommé ministre des Affaires religieuses dans le gouvernement. C'est ce qu'a annoncé mardi le premier ministre Hamza Abdi Bar. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, tire la sonnette d'alarme sur le risque de famine en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Baisse de production agricole pendant la campagne 2021-2022, la crise ukrainienne, l'insécurité civile, la crise sanitaire sont des facteurs qui pourraient occasionner une situation de famine affectant au moins 40 millions de personnes. Les explications de Gwateux Robert Gay, coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.
Nous faisons face actuellement, je parle de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, à une augmentation généralisée du prix des denrées alimentaires de base, qui contribue à éroder le pouvoir d'achat des ménages et affecte toutes les catégories socio-économiques, surtout les personnes les plus vulnérables. Comparativement au mois précédent, cette hausse de prix s'est accentuée aussi bien sur les céréales locales, donc on a eu une augmentation de près de 40% sur les produits importés comme le blé, 20%, l'huile, etc. C'est une hausse qui est inhabituelle et principalement due à une combinaison de facteurs, telles que les mauvaises conditions de céréales de l'année passée, 2021-2022, dans les pays du Sahel. Et comme on sait, nous tous, la persistance de l'insécurité civile, les effets de l'embargo sur le Mali, les diverses mesures d'interdiction et de restriction de sortie de céréales, etc. Mais aussi, il faut ajouter les effets de la crise russo-ukrainienne, puisqu'ils sont d'importants exportateurs d'engrais, de blé et d'autres produits. Alors, la situation est assez préoccupante. Et les données que nous avons consultées, les données Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le cadre harmonisé, qui est une des données collectées par les organisations d'ici, y compris la FAO, indiquent vraiment une dégradation continue des conditions alimentaires nutritionnelles. Les pays qui sont beaucoup plus concernés aujourd'hui, presque tous les pays sont concernés, mais l'aggravation de la crise sécuritaire dans les zones dites de 3 frontières, Burkina, Mali, Niger, et dans les états du nord-ouest et du centre du Nigeria, nous expérimentons aujourd'hui également des problèmes au nord du Bénin et du Togo. En termes de chiffres, il faut dire que nous avons environ près de 40 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout pendant cette période de soudure, c'est-à-dire dans le mois de juin, août. Donc voilà un peu la situation alimentaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Ce n'est pas une situation reluisante du tout. Et donc c'est dû également à plusieurs facteurs.
Peut-on parler de risque de famine?
bon, pas pour toute l'Afrique de l'Ouest, mais au milieu de chaque pays, il y a les plus de vulnérabilité. C'est-à-dire les parties des pays où les gens sont beaucoup plus vulnérables par rapport à d'autres. Les pays où il y a déjà des conflits, il faut dire que les gens se déplacent et tout ça, donc ils perdent leur capacité de production, ils sont soumis à des aides humanitaires, etc. Je donne par exemple les pays avec plus d'un million de personnes en situation de crise et au-delà. Depuis juin-août 2021, sont essentiellement le Nigeria avec 12,8 millions, le Burkina Faso 2,9 millions, le Niger 2,3 millions, la Sierra Leone 1,8 millions, le Tchad également 1,8 et le Mali 1,3. Donc voilà les pays et les franges de population qui sont vraiment dans le besoin. Mais à part ça, il y a d'autres parties des pays où les gens font de la production, où la situation est un peu plus, disons, un peu plus meilleure par rapport à ces zones-là de conflits, etc.
Toutefois, on peut qualifier la situation d'assez inquiétante.
Oui, la situation est inquiétante selon les données du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires PRIGEC. La production céréalière est totale, c'est-à-dire maïs, riz, mil, sorgho, fonio et blé, attendue au Sahel et dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour la campagne 2021-2022, est en principe de 73,3 millions de tonnes de céréales. Mais cette production est en baisse de 1,8% par rapport à l'année dernière pour l'ensemble des pays. Et au niveau du Sahel particulièrement, la production céréalière a diminué de 11% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Ça veut dire que la situation, si ça continue, de plus en plus de personnes vont être en état de crise alimentaire et ceci n'est pas aidé du tout avec la flambée des prix.
Combien de personnes pourraient être menacées par la situation si elle ne s'améliore pas?
Déjà, les prévisions de cette année, déjà 2021-2022, surtout dans le mois de juillet et août 2022, fait état de près de 40 millions de personnes au niveau de cette zone, ce qui est pour beaucoup de personnes.
C'était Monsieur Gwatwe Robert Gay, coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il répondait aux questions de Françoise Niamien. Bouclons ce programme avec la campagne sur la vaccination pour tous. Elle nous conduit en Côte d'Ivoire.
Vaccin pour tous.
Face aux rumeurs, aux informations fallacieuses à l'encontre des vaccins anti-COVID-19, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a, par le biais de sa direction de communication, mis sur pied un comité de veille et de traçage d'informations. L'objectif, selon Mahan Sehi, chef de service rédaction et presse au sein de la dite direction, vise à apporter des réponses appropriées à ces phénomènes.
Ce comité est composé des ASC, les agents de santé communautaire. Ils sont plus de 4000 répartis donc dans les 113 districts sanitaires que compte le pays. Des agents donc de téléopérateurs qui sont logés au centre du 143, le numéro vert, ainsi que les experts, donc les scientifiques et des experts en communication. Les agents sur le terrain, donc les agents de santé communautaire, recueillent les différentes rumeurs et fake news sur le terrain. Il les remonte au niveau donc du centre d'appel. Le centre d'appel regroupe toutes ces informations telles qu'elles ont reçues et les transmet au niveau des communicants et des scientifiques. Et une fois les réponses appropriées sont adressées, nous faisons le feedback à travers le même canal jusqu'aux populations à travers des supports que nous mettons sur pied. Face aux fake news, la population ivoirienne doit adopter la bonne attitude, écouter la voix officielle, donc à travers les communiqués donnés par le ministère technique où les agents formés pourront leur donner les informations appropriées indiquées.
Mahan Sehi, chef de service rédaction presse au sein de la direction de communication du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, dans des propos recueillis par Marcel Ariston Blé. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.